Chapitre 5 Judas et sa troupe. Judas n'avait pas prévu l'effet que sa trahison devait produire. En livrant son maître, il avait voulu gagner le salaire de l'iniquité et se rendre agréable aux pharisiens. Il ne supposait pas qu'ils pousseraient leur persécution jusqu'au jugement et au crucifixion du Seigneur. L'argent seul préoccupait son esprit, et depuis longtemps il s'était mis en rapport avec quelques intrigants pharisiens et sadducéens qui, par leur flatterie, l'avaient excité à accomplir sa trahison. Il était las de la vie fatigante, errante et persécutée que menaient les apôtres. Depuis plusieurs mois, il avait préludé à son crime en volant les aumônes confiées à ses soins et sa cupidité. Irrité par la prodigalité de Madeleine lorsqu'elle oignit Jésus de parfum, mit enfin sa patience à bout. Il avait toujours espéré que Jésus établirait un royaume terrestre et qu'il y obtiendrait un emploi brillant et lucratif. Se voyant trompé dans ses espérances, il voulait amasser une fortune. Comme la persécution croissait toujours, il songea, avant l'approche du danger, à se mettre bien avec le grand prêtre et tous les plus puissants ennemis du Seigneur, dont le prestige l'éblouissait. Il se livrait de plus en plus à leur affidé, qui le flattait de toute manière et lui disait avec assurance que quoi qu'il arrivât, on en finirait bientôt avec Jésus. Dans ces derniers jours, il s'était donné beaucoup de mouvements pour déterminer les princes des prêtres à agir. Ceux-ci ne voulaient pas encore accepter ses propositions. Il le traitait avec le plus grand mépris. Il disait qu'il n'y avait pas assez de temps avant la fête et qu'il ne voulait point la troubler en provoquant un tumulte. Le Sanhédrin, cependant, prêta quelque attention aux propositions de Judas. Après la réception sacrilège du sacrement, Satan s'était complètement emparé de lui. Il était parti pour consommer son crime. Il alla d'abord trouver les négociateurs qui l'avaient toujours flatté, et qui l'accueillirent encore avec une amitié feinte. Il en vint d'autres, parmi lesquels Caïphe et Anne. Ce dernier, toutefois, prit avec lui un ton hautain et railleur. Ils étaient irrésolus et comptaient peu sur le succès parce qu'ils ne se fiaient point à Judas. Je vis alors l'enfer divisé. Satan voulait le crime des Juifs et la mort de Jésus, l'homme innocent, le sauveur des pécheurs, le saint docteur, le juste qu'il haïssait. Mais il éprouvait aussi je ne sais quelle terreur à la pensée de la mort de ce héros si pur, qu'il ne voulait pas se sauver lui-même, et il lui enviait la gloire de sa mort imméritée. Je vis donc le démon d'un côté exciter la haine et la fureur des ennemis de Jésus, et de l'autre inspirer à quelques-uns d'entre eux la pensée que Judas était un infâme, un misérable, et qu'on ne pourrait pas terminer l'affaire avant la fête, ni réunir un nombre suffisant de témoins contre Jésus. Ils discutèrent leurs opinions diverses sur la résolution à prendre, et dirent entre autres choses à Judas, pourrons-nous nous saisir de lui? N'a-t-il point avec lui des hommes armés? L'infâme traître répondit, non, il est seul avec ses 11 disciples, lui-même est tout abattu et les 11 sont tous des hommes sans courage. Il ajouta qu'il fallait s'emparer maintenant de Jésus ou jamais, et qu'il ne voulait plus revenir auprès d'eux, parce qu'alors il ne pourrait plus le livrer. Car depuis plusieurs jours, et ce jour-là en particulier, les autres disciples et Jésus lui-même avaient manifesté clairement qu'il avait sur lui des soupçons, et qu'il le tuerait sans doute s'il retournait auprès d'eux. Il dit encore que s'il n'arrêtait pas Jésus immédiatement, il allait s'évader pour revenir bientôt avec toute une armée de partisans et se faire proclamer roi. Judas, par ses menaces, parvint à les décider. On accepta sa proposition et il reçut le salaire de son crime, les 30 pièces d'argent. Ces pièces étaient oblongues, percées à l'une de leurs extrémités et attachées par des anneaux à une chaîne. J'y vis empreint des caractères. Judas, blessé du mépris qu'on lui témoignait, fut poussé par l'orgueil à leur offrir les 30 pièces d'argent pour le temple, afin de se donner l'air d'un homme juste et désintéressé. Mais ils refusèrent de les accepter, parce qu'il n'était pas permis de mettre dans le trésor le prix du sang. Judas, qui regarda ce refus comme une insulte, en fut exaspéré. La trahison portait déjà ses fruits avant même qu'elle fût accomplie. Mais il s'était engagé trop avant et ne pouvait plus se retirer. Ils le surveillèrent et ils ne le perdurent pas de vue qu'il ne leur eût exposé son plan pour prendre Jésus. Trois pharisiens l'accompagnèrent lorsqu'il descendit dans une salle où se trouvaient des soldats du temple qui n'étaient pas seulement des juifs mais des hommes de toute nation. Lorsqu'ils se furent concertés et qu'on eut fait venir un nombre suffisant de soldats, Judas, accompagné d'un serviteur des pharisiens, courut d'abord au cénacle afin de leur faire savoir si Jésus y était encore. Il eût été facile de s'emparer de lui en occupant les portes. Il devait les en avertir par l'intermédiaire du serviteur. Judas avait à peine reçu le prix de sa trahison qu'un pharisien sortit et envoya sept esclaves chercher du bois pour préparer la croix dans le cas où le jugement aurait lieu. Car le lendemain, on ne pourrait la terminer avant le commencement de la Pâque. La pièce principale de la croix avait été jadis un arbre de la vallée de Josaphat, planté près du torrent de Cédron. Plus tard, l'arbre était tombé en travers, servi de pont. Lorsque Néhémie enfouit le feu sacré et les saints vases du temple dans l'étang de Bethesda, cet arbre fut jeté par-dessus avec d'autres pièces de bois. Puis il en avait été retiré et mis de côté. La croix fut préparée d'une manière toute particulière, soit par l'effet du hasard, soit parce qu'on voulait se moquer de Jésus, ce soi-disant roi, mais en réalité parce que Dieu voulait qu'il en fût ainsi. Judas revint dire aux pharisiens que Jésus n'était plus au cénacle, ajoutant qu'il devait être sur le mont des Oliviers, où il avait coutume de se retirer pour la prière. Il leur demanda de ne faire partir avec lui qu'une troupe peu nombreuse, afin de ne pas éveiller les soupçons des disciples qui se tenaient aux aguets et qui auraient pu exciter une sédition. 300 hommes devaient occuper les portes et les rues du quartier d'Ophel, situé au midi du temple, ainsi que la vallée de Millo, jusqu'à la maison d'Anne sur le mont Sion, afin de lui envoyer du renfort, s'il en était besoin au retour de l'expédition. Car, disait-il, toute la populace d'Ophel est très attachée à Jésus. Il leur dit qu'il devait user de précautions pour l'empêcher de s'échapper, car souvent par des moyens magiques, il s'était rendu tout à coup invisible à ceux qui le poursuivaient et s'était sauvé dans les montagnes. Il leur conseilla aussi de l'attacher avec une chaîne et d'avoir recours à certains procédés magiques pour l'empêcher de la briser. Les Juifs rejetèrent ses avis avec dédain. « Tu voudrais nous en faire à croire, mais si une fois nous le tenons, nous saurons bien le garder. » Judas convint avec les Juifs d'entrer avec eux dans le jardin. Il embrasserait et saluerait Jésus comme s'il venait à lui en ami et en disciple, et alors les soldats accourraient pour s'emparer de lui. Il voulait que ceux-ci eussent l'air d'être venus là par hasard et que lui-même parût n'être pour rien dans leur démarche. Ensuite, il s'enfuirait avec les autres disciples. Il pensait aussi qu'un tumulte pourrait s'ensuivre, que les apôtres se défendraient peut-être, et qu'ainsi Jésus se déroberait comme il avait déjà fait plusieurs fois. Il s'abandonnait surtout à cette pensée lorsqu'il se sentait blessé du mépris et de la défiance des ennemis du Sauveur. Mais il n'éprouvait ni compassion pour Jésus ni repentir de son crime, car il était livré tout entier à Satan. Il ne voulait pas non plus que ceux qui l'accompagnaient portassent des liens et des cordes. Ils firent semblant d'acquiescer à sa demande, mais au fond, on agissait avec lui comme avec un traître dont on se défie et qu'on repousse lorsqu'on s'en est servi. Les soldats reçurent l'ordre de surveiller Judas et de ne pas le perdre en instant de vue jusqu'à la prise de Jésus. Car, comme il avait reçu le prix de sa trahison, on pouvait craindre qu'il ne s'en allât avec son argent et qu'ainsi l'on ne pût prendre Jésus ou qu'on en prît un autre à sa place. La troupe, chargée d'arrêter le Seigneur, se composait de 20 hommes, pris soit dans la garde du temple, soit parmi les archers d'Anne et le Caïphe. Leur costume était à peu près semblable à celui des soldats romains. Ils avaient comme eux des morions et des courroies pendantes autour des cuisses. Il s'en distinguait surtout par la barbe, car les Romains qui habitaient Jérusalem n'en avaient que sur les joues, et leurs lèvres et leurs mentons étaient rasés. Tous les 20 étaient armés d'épées, quelques-uns même de piques. Ils portaient des lanternes et des torches, mais au moment de l'arrivée, ils n'avaient qu'une seule lanterne allumée. On voulut donner à Judas une escorte plus nombreuse, mais il objecta qu'il serait trop facilement aperçu, puisque du mont des Oliviers, on avait vu sur toute la vallée. Le gros de la troupe resta dans Ophel, et on plaça des postes en divers endroits de la ville et aux environs, afin d'empêcher tout rassemblement et toute tentative pour délivrer Jésus. Judas prit donc les devants avec les 20 soldats, mais on le fit suivre à quelque distance par 4 villes archers ou bourreaux qui portaient des cordes et des chaînes. À quelques pas derrière ceux-ci venaient les 6 agents avec lesquels Judas était depuis longtemps en rapport. C'était un prêtre confident d'Anne, un affidé de Caïphe, 2 pharisiens et 2 sadducéens, courtisans, espions rusés d'Anne et de Caïphe, tous ennemis acharnés du Seigneur. Les soldats se montrèrent fort complaisants vers Judas jusqu'à l'endroit où le chemin sépare le jardin des Oliviers et celui de Gethsémanie. Là, ils ne voulurent plus le laisser aller seul en avant. Ils prirent un autre ton et disputèrent avec lui de la manière la plus insolente.